Oui, bonjour, Yves Dalpé, psychologue de nouveau avec un nouvel épisode de Psycho Balado. Nous sommes le 15 décembre 2023 et je poursuis la lecture de mon livre intitulé « L'infidélité n'est pas banale » et nous en sommes rendus au chapitre intitulé « La cruelle différence de libido ». Et maintenant, le sous-titre où nous sommes rendus est le suivant. « La fréquence sexuelle dans le couple est intimement liée à l'affectivité et ses déraillements ». Certains individus sont très sensibles au rejet à cause de leur personnalité et de leur vécu infantile. Or, le refus sexuel engendre facilement un sentiment de rejet, et ceci même quand la personne qui refuse une initiative sexuelle le fait pour des raisons de santé ou de fatigue réelle. Ainsi, une proportion considérable de femmes perdent de l'intérêt sexuel après un accouchement et il peut s'écouler un an et plus avant que la libido ne revienne à la normale. Ce serait plus fréquent chez les femmes qui allaitent, semble-t-il. Pourtant, même si le mari est témoin de l'épuisement de sa conjointe, il peut se sentir quand même amèrement rejeté par des refus sexuels. Les hommes qui ont souffert de manque d'attention durant leur enfance sont probablement les plus à risque. Ils peuvent transporter leur dépit inconscient provenant de leur enfance que leur conjointe Ils peuvent transporter leur dépit inconscient provenant de leur enfance sur leur conjointe et alimenter ainsi une amertume grandissante qui deviendra incontrôlable avec le temps. Ils seront tentés par l'infidélité pour compenser ce déficit affectif qui les ronge, mais ils ne percevront pas l'aspect affectif de leur désir sexuel extra-conjugal. Il existe un lien inconscient, étroit, entre nos relations sexuelles et l'affection vécue autrefois dans la petite enfance avec nos parents. Quand nous vivons une relation sexuelle, notre langage affectif infantile nous habite de façon plus intense. Les blessures affectives risquent de se rouvrir et peuvent remonter à la surface les rejets, les frustrations, les manques d'attention et les manques d'affection qui nous ont tant fait souffrir autrefois. Même les pertes antérieures d'êtres chers peuvent surgir tout à coup. Dans un sens, pendant les relations sexuelles, nous sommes plus sensibles et plus vulnérables. Une cliente qui manquait absolument de désir sexuel pour son mari me confiait à quel point elle était blessée sur le manque de présence mentale et affective de celui-ci. En faisant l'amour, elle sentait l'énorme distance entre elle et son mari. Il était inattentif à son vécu à elle, à ses réactions et ses émotions. C'était un dur rappel, se plaignait-elle, de ce que ses parents lui avaient fait vivre enfant. Les souvenirs insupportables de la petite fille qui s'était senti sans, qui s'était senti tant délaissé, remontait à la surface. Souvent d'ailleurs, l'explication du manque de désir sexuel d'une femme pour son conjoint est le manque de considération de celui-ci envers elle. Un homme peut donc se plaindre du manque de libido de sa conjointe et en l'apercevant comme inadéquate sur le plan sexuel, alors que ce sont ses propres attitudes relationnelles qui sont déficientes. Ces attitudes dominatrices, méprisantes et rejetantes induisent chez sa conjointe le manque de désir sexuel. Si donc il lui manque de respect, ou manque de présence, ou manque d'affection, ou ne s'implique pas assez dans les tâches domestiques, ou bien s'il manque d'empathie, ou il manque de communication, ou encore s'il manque d'intérêt envers elle de façon générale, elle se sentira utilisée sexuellement et pourra développer de l'aversion pour les relations sexuelles avec lui de façon spécifique. En fait, dans de tels cas, le manque de désir sexuel devient en fait une réaction saine. On voit souvent ce modèle chez les couples dont le mari est narcissique. Méprisant de nature, le narcissique accable sa conjointe, accable sa conjointe de mépris pour se plaindre ensuite de la voir si peu intéressée à lui sexuellement. Il ne fait pas le lien. Le psychologue peut être très utile dans ces cas-là, mais il doit avoir beaucoup de doigté. En effet, malgré les apparences, l'estime de soi du narcissique est tellement fragile que la moindre critique peut être dévastatrice. Ainsi, un homme narcissique peut être amené en psychothérapie conjugale par son épouse à la suite d'une infidélité de sa part. Faisant état de ses frustrations conjugales, ce conjoint narcissique insistera sur le manque de désir de son épouse et il pourra même suggérer la recherche d'une approche médicale pour guérir celle-ci de son déficit hormonal selon lui. Si le psychologue tente alors trop rapidement de faire le lien entre les attitudes déficientes du narcissique et le manque de libido de sa conjointe, cet homme narcissique pourra devenir arrogant sur le champ et ne plus se représenter en entrevue. Comme des feedbacks dans le cadre thérapeutique est une manœuvre délicate, un peu comme le changement de vitesse dans la conduite manuelle d'une automobile. Si on n'appuie pas assez sur la pédale à gaz, c'est-à-dire donner des feedbacks, ça n'avance pas. Mais si on appuie trop fort, le moteur s'étouffe. Pourtant, les narcissiques sont souvent les clients qui réclament dès le début de leur thérapie qu'on ne les ménage pas avec nos commentaires. Cependant, ils deviennent défensifs dès qu'on ouvre la bouche. La clé du succès avec les narcissiques, c'est plutôt l'empathie au maximum. Cela s'applique autant dans le cadre thérapeutique que dans les rapports quotidiens avec des narcissiques. Quand on connaît la dynamique de cette personnalité fragile à la honte, on a davantage le goût d'intervenir avec compassion. L'homme de type obsessionnel compulsif est susceptible lui aussi de diminuer le désir sexuel de sa conjointe avec ses attitudes dominatrices et constamment critiques. Même s'il est bien intentionné, il la poussera à le rejeter, ce qui pourra amener à développer le goût d'aller voir ailleurs. Mais les attitudes relationnelles inadéquates de son mari, quelle qu'elle soit, peuvent pousser la conjointe elle aussi à songer à l'infidélité. Dans ce cas, ce ne sera pas la sexualité telle quelle qui attirera, mais plutôt le désir de trouver quelqu'un qui saura l'accueillir, lui démontrer de la tendresse, de l'admiration, etc. C'est plus dangereux, en effet. C'est plus dangereux. En effet, les femmes qui sont infidèles sont plus insatisfaites de leur relation conjugale que les hommes. Elles sont plus amoureuses de leur amant et elles veulent davantage divorcer pour vivre leur nouvel amour. On comprend leur réaction et on est parfois porté à les encourager quand leur mari semble vraiment inadéquat. Cependant, les femmes aussi, bien entendu, peuvent être fautives et transférer inconsciemment sur leur conjoint un bagage qui n'appartient pas à celui-ci. Ce que j'appelle les colères transférentielles sont les colères injustifiées et disproportionnées contre le conjoint actuel. Elles tirent leur origine des ressentiments accumulés avant la relation actuelle à partir du vécu avec les parents, les frères et sœurs, même les conjoints antérieurs s'il y en a eu. Cela vaut pour les deux sexes, évidemment. Les personnes habitées par des colères transférentielles ont particulièrement besoin d'aide pour départager leur réalité objective actuelle de leur fantôme. Les enjeux sont considérables pour leur bien-être et pour la survie du couple. En effet, la capacité de faire assez confiance à une autre personne pour s'y abandonner est essentielle pour tolérer les menaces suscitées par l'intimité affective et sexuelle. Comme nous le verrons au chapitre 7, l'intimité amoureuse soulève toutes sortes d'anxiétés inconscientes. Nombre d'hommes qui se plaignent du manque de libido de leur conjointe ne réalisent pas qu'ils ont consciemment choisi une femme peu sensuelle, tout simplement pour ne pas revivre l'impression d'être dévoré par une mère trop envahissante. Un homme peut souffrir toute sa vie du manque de libido de sa conjointe en ne réalisant pas qu'il ne pourrait pas tolérer davantage d'intensité. Autrement dit, notre capacité relationnelle sur le plan sexuel et amoureuse est directement liée à l'histoire de notre vécu affectif, et la fréquence sexuelle d'un couple est directement affectée par les vulnérabilités affectives de chacun des conjoints. Il est bon de le reconnaître avant d'accabler notre conjoint de nos frustrations et de se venger par l'infidélité. Nouveau sous-titre maintenant. L'excitation sexuelle est hantée par la honte. La culpabilité liée au complexe d'Œdipe a été longtemps l'explication favorite des psychanalystes pour les divers problèmes sexuels. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage à la honte qui tire ses origines bien avant la période de 3 à 5 ans du complexe d'Œdipe. La honte est directement liée à la qualité des relations maternelles, la personne la plus proche de l'enfant. Ça peut être un père aussi. Si les besoins de l'enfant sont adéquatement comblés en ce début de la vie, l'enfant développera une estime de lui-même saine et il aura confiance en les autres. Sinon, si la mère, par exemple, manque d'empathie pour son bébé, il en tirera la conclusion qu'il n'en vaut pas la peine et son estime de lui-même en sera atteinte. Cet individu risque de se percevoir plus tard comme sans valeur, sinon mauvais. Devenu adulte, cet ancien bébé, puis cet ancien enfant, craindra l'intimité parce que la présence trop proche d'une personne activera en lui la honte et par conséquent la réaction de se cacher. Foncièrement honteux, il sera mal à l'aise dans l'intimité avec la peur que l'autre découvre sa non-valeur. L'intimité activera la honte et celle-ci provoquera le retrait. Conséquemment, conséquences sexuelles, typiquement, la femme blessée va se retirer sexuellement, sa libido sera faible, tandis que l'homme blessé va plutôt verser dans la perversion sexuelle de façon à décharger sa tension sexuelle sans risquer les émotions négatives reliées au contact interpersonnel. Il va donc dissocier sexualité et tendresse par protection. Bien d'autres théories mettent en lumière les liens étroits entre le traitement reçu par les tout-petits et la capacité ultérieure à d'aimer. Mais explorons un peu plus, pour le moment, la question de la honte reliée à la sexualité. Selon Stroller, en 1990, tout le monde fait face à la honte dès qu'il est question de sexualité. Tout en pratiquant la psychanalyse en Californie, le psychiatre Robert Stoller a voyagé partout sur la planète pour interviewer même des personnes de sociétés très éloignées sur leur vie sexuelle. Après des milliers d'heures de questionnements les plus indiscrets qui soient sur la sexualité de ces personnes, Stoller en est venu à la conclusion que l'excitation sexuelle est foncièrement reliée à la honte. Tous autant que nous sommes, a-t-il écrit, hommes et femmes, chaque fois que nous envisageons une activité sexuelle, nous ressentons inconsciemment les moments de notre vie où nous avons été traumatisés par la honte. Et nous cherchons à combattre ces expériences d'humiliation par de nouveaux scénarios où nous triomphons. La pornographie, j'aime mieux le mot érotisme, disons, l'érotisme, en alimentant notre imaginaire, servirait à prendre soin de notre humiliation. Nos fantasmes sexuels, dis-je, dans lesquels nous baignons généralement dans une sensualité lumineuse, où nous sommes suavement désirés. Alors, ce serait donc une façon de réduire la honte ressentie au contact des autres. Dans la même ligne, la pensée de dans la même ligne de pensée, selon Nathaniel, en 1992, l'excitation sexuelle s'accompagne automatiquement de fantasmes dans lesquels nos désirs seront parfaitement comblés, espérons-nous. Notre partenaire sexuel, sans le réaliser, embarquera dans le jeu et partagera notre excitation et notre satisfaction finale. Le succès de notre relation sexuelle avec notre partenaire nous remplira de fierté. Toutefois, c'est là le hic, la moindre hésitation dans l'appréciation de notre partenaire sexuel sur notre performance suscite la honte en nous-mêmes. Le problème, c'est que même le partenaire le plus sensible qui soit, le plus réceptif aux moindres nuances de l'évolution de notre excitation sexuelle dans une relation sexuelle donnée, c'est techniquement impossible d'être en parfaite harmonie tout au long de cette relation sexuelle. En conséquence, toujours, invariablement, inévitablement, notre excitation sexuelle va rencontrer quelque chose d'une quelconque déception. Et la honte de soi et la honte de soi-même est alors immédiatement attachée à notre déception. Si minime soit-elle. Puis le dialogue interne de dépréciation amplifiera l'importance objective de cette déception. On voit bien comment nous pouvons être hypersensibles en matière de sexualité. Nous pouvons être embarrassés par tout ce qui est associé à notre valeur sexuelle. La dimension du pénis, la grosseur des seins, la fermeté de l'érection, la quantité de lubrification vaginale les sons émis, l'odeur de la peau, la fermeté de la peau, le poids, etc. La liste est interminable puisque c'est la personne au complet qui est nécessairement évaluée par le partenaire sexuel qui voit l'autre dénudé et par conséquent vulnérable. La honte fait donc partie intégrale de notre vécu sexuel. La honte apparaît dès que l'intensité du désir sexuel dépasse la possibilité de gratification par le partenaire. C'est pourquoi, même entre conjoints, entre amoureux, l'initiative sexuelle était si délicate. On joue avec le possible sentiment de rejet. Pour les hommes, la honte rôde toujours autour des frontières de l'excitation sensuelle. Et combien de femmes ne se sentent-elles pas humiliées et utilisées quand elles réalisent que toute l'attention déployée par leur amoureux avait pour seul but l'assouvissement du désir sexuel masculin plutôt que le désir de les conquérir amoureusement. Pour l'homme, c'est souvent le contraire. Il rêve volontiers d'être un objet sexuel et peut cruellement souffrir de ne pas l'être. Je me demande si l'une des raisons pour lesquelles les hommes aiment tant recevoir une fellation n'est pas justement de sentir ou d'imaginer le plaisir sexuel cru que leur partenaire éprouve à se concentrer sur leur pénis. Sachant comment la honte rôde dans toute relation sexuelle, nous ne serons pas surpris d'apprendre que les dysfonctionnements sexuels, c'est-à-dire l'impuissance, l'anorgasmie, l'éjaculation précoce, etc. Alors, ces dysfonctions amènent souvent une baisse de la fréquence des relations sexuelles dans un couple. Beaucoup de conjoints tiennent alors pour acquis Alors, beaucoup de conjointes tiennent alors pour acquis, à tort, que le manque d'initiative sexuelle de l'autre est dû au manque de désir, alors que la vraie raison est la honte suscitée par la dysfonction sexuelle. On ne veut pas perdre la face. On peut donc penser que toute. On peut donc penser qu'une motivation inconsciente à une infidélité suite au manque d'ardeur sexuelle d'une épouse reposerait pour reposerait pour un homme sur le désir de mettre un baume sur la honte qu'il ressent plus au plus profond de lui-même, honte incluse, honte induite par le manque de libido de sa compagne. L'infidélité n'aurait pas alors pour but de lui apporter plus de plaisir sexuel, mais bien plutôt de soigner son estime de soi meurtrie. Alors voilà. Excusez la lourdeur, on dirait que c'est de pire en pire. Je suis vraiment mal à l'aise. Comme j'expliquais dans d'autres épisodes, là, j'ai un problème avec les cataractes. Je dois subir une chirurgie bientôt, puis je me pense toujours meilleur que je le suis, il faut croire, quand je commence un nouvel épisode. Mais là, j'ai l'impression d'avoir exagéré un peu trop. Je compte sur votre sympathie, mes chers auditeurs. Alors, c'était Yves Dalpé avec Psycho Balado. On peut consulter mon site internet www.dalpecote.com pour en connaître un petit peu plus sur qui je suis et sur la rédaction de mes livres. Alors, donc, au plaisir et à bientôt dans probablement environ 2 heures.